Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Fanny Richer, Céline Leclerc, Nicolas Ignatieff, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean Frédérics. La date butoir était fixée au 31 décembre 2014. Force est de constater que le délai n'aura pas été tenu, car si la loi prévoyait qu'à cette date, tous les établissements recevant du public devaient être accessibles aux personnes handicapées, ce n'est malheureusement pas la réalité aujourd'hui. C'était pourtant l'un des grands objectifs de la loi du 11 février 2005, dont on marquera les 10 ans demain. Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L'accès aux lieux publics faisait partie d'un projet plus ambitieux d'accessibilité à l'espace démocratique. Droits et devoirs, mais aussi participation à la vie citoyenne. De fait, si nous sommes tous citoyens, avons-nous pour autant les mêmes moyens de son exercice ? La nouveauté de cette loi était également de ne pas aborder le handicap sous l'angle exclusivement médico-social. À travers un meilleur accès aux services, mais aussi au travail, à la scolarité, la loi de 2005 bousculait la logique de politique compassionnelle justement dénoncée par les associations. Mais son intitulé « Participation et citoyenneté des personnes handicapées » peut aussi être lu comme un aveu, celui d'un déficit d'intégration des personnes handicapées au sein de la cité. 10 ans après, les choses ont-elles changé pour les 10 millions de personnes concernées par la situation ? La citoyenneté est-elle accessible aux personnes handicapées ? C'est notre sujet du jour. Et j'ai le plaisir de recevoir 4 invités pour en discuter ce soir. Serge Ebersold, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à l'Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. C'est bon,
tout à
c'est
fait toujours. Ça, oui.
J'ai dû reprendre mon souffle quand même. Et en face de vous, Claude Amonet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, spécialiste de médecine physique et de réadaptation. Vous êtes auteur notamment de « Les personnes en situation de handicap » aux éditions Que sais-je, PUF, et donc qui est régulièrement mis à jour dans une édition augmentée. La dernière date de 2012, c'est
exactement, ça. Exactement, c'est ça, oui.
En duplex depuis les studios de France Bleu à Périgueux, nous sommes aussi avec Rémi Gendarme. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur de films documentaires et de créations sonores. Vous militez au sein de l'Association des paralysés de France, l'APF. Vous êtes tétraplégique. Je cite votre dernier livre, « Je n'accepterai aucune assistante sexuelle si lui faire l'amour ne la fait pas elle-même trembler de plaisir » aux éditions FLBLB en 2014.
Et tout à fait.
Et notre quatrième invité, Florie Kerzuli. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coprésidente de l'association Starting Block. Donc Starting Block, c'est une association basée en Seine-Saint-Denis, une association de jeunes adultes engagés pour construire un monde juste, inclusif et solidaire. Et vous avez notamment un projet en cours qui s'appelle Handi Valide, un monde où l'on est étudiant avant d'être handicapé. Vous nous en dites un mot ?
Oui, bien sûr. Donc c'est un projet qui en fait 3 projets. Il y a un projet qui s'appelle le jumelage, qui permet à des classes de jeunes collégiens en situation de handicap de rencontrer des classes de jeunes collégiens valides et ensemble de faire différentes activités. Donc des activités qu'on a l'habitude de faire sous forme de jeux, de questionnements sur diverses thématiques et aussi de faire du sport ensemble. On a un projet qui s'appelle le tutorat Handi Valide, qui est un projet mené par des étudiants bénévoles qui vont voir des groupes généralement de 3 ou 4 jeunes en situation de handicap et avec qui ils parlent de beaucoup de choses qui les intéressent, notamment leur orientation, etc. Et donc le dernier projet, c'est la campagne Handi Valide qui se déroule dans les universités. Et on fait beaucoup de sensibilisation au handicap, essayer de parler autour de tables rondes de différents sujets de société autour du handicap.
Donc voilà. Décloisonner le handicap, si je comprends bien. Revenons juste alors sur l'intitulé de la loi, loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Est-ce qu'il faut déduire de cet intitulé, comme je le suggérais en introduction, c'est qu'avant 2005, la question de la citoyenneté n'avait jamais été posée, ou en tout cas correctement posée? Serge Ebersold.
J'ai l'impression qu'elle ne se posait pas dans les mêmes termes. C'est-à-dire que si l'on prend par exemple la loi de 75, une des dimensions retenues par les parlementaires à l'époque pour caractériser l'exclusion des personnes dites handicapées était l'absence de statut. C'est parce qu'elles n'étaient pas statut, ils n'avaient pas de statut, qu'on voyait qu'elles étaient exclues. À l'inverse, en 2005, un des facteurs autour desquels on pensait l'exclusion des personnes reconnues handicapées, c'était l'existence d'un statut. Et me semble-t-il, ce glissement de perspective me paraît assez révélateur des nouvelles conceptions de la citoyenneté qui traversent les politiques publiques depuis une trentaine d'années, où il s'agit, me semble-t-il, de faciliter au premier chef l'implication de tout un chacun dans toutes les dimensions de la vie collective. Si longtemps la diversité était pensée ou associée à l'inadaptation, à compter du début des années 90, elle a été pensée comme une source d'enrichissement. Et ce souci de participation, ce souci de citoyenneté me paraît largement reflété un mode d'analyse qui voit dans la diversité une source d'enrichissement pour tout un chacun et opérer une inversion symbolique majeure puisque le handicap, d'une certaine manière, n'est plus associé comme un surcoût, mais aussi comme une contribution au bien-être collectif de la société.
On va faire un tour de table sur cette question. Rémi Gendarme, on vous écoute.
Oui, oui. Sur cette question de la citoyenneté, moi, la différence que je fais entre la loi de 75 et celle de 2005, c'est que lorsqu'on parlait d'intégration, on sous-entendait que c'était à la personne handicapée de s'adapter ou d'imaginer une personne qu'on essaye de faire rentrer de force dans un petit trou, dans une case. Maintenant, théoriquement, on parle d'inclusion, c'est-à-dire c'est plutôt à la société tout entière de s'adapter à tous, en fait.
Claude Amonet, vous partagez l'idée que la loi de 2005 a un petit peu inversé notre représentation du lien entre le reste de la société et les personnes souffrant de handicap?
Oui, je partage surtout ce qui vient d'être dit sur la notion d'inclusion. Parce que la notion d'un statut particulier pour les personnes que moi j'appelle en situation de handicap, c'est de Sertine, que j'ai bien connu, qui est un grand juriste et qui est le président de l'ADEP et qui a énormément travaillé sur la notion de droit et handicap. Il a même ouvert le premier colloque, c'était d'ailleurs par hasard à Créteil, au tribunal de grande instance, sur droit et handicap, en indiquant que justement la notion de droit des personnes handicapées était une notion complètement nouvelle et que voilà. Je suis assez d'accord, bien sûr, avec ça, je trouve que c'est bien, mais dans le fond, je me demande si de vouloir créer un statut si particulier pour les personnes handicapées, de dire qu'il y a un droit de handicap alors qu'en fait, toutes les personnes en situation de handicap sont des citoyens comme les autres, ils ont les mêmes droits, et que en voulant trop rendre spécifique, autrefois c'était assistance, loi de 75, c'est une loi d'assistance. Bon. Là, maintenant, on parle de compensation, et de faire un statut particulier, je me demande si ça ne contribue pas justement à discriminer d'une certaine façon, parce que on fait un cas particulier de citoyens qui sont comme les autres.
Vous voulez dire qu'il y a une contradiction interne entre, oui, d'un côté, le fait de reconnaître un statut avec des besoins spécifiques, des moyens spécifiques, oui, et en même temps la volonté de dire nous sommes tous des citoyens à part entière, c'est ça, vous partagez l'idée qu'il y a une contradiction interne. Vous voulez réagir, Rémi Gendarme?
Oui, poser d'après moi cette question en termes de paradoxe, c'est, excusez-moi, c'est se planter sur les termes de la question. Ce qu'on revendique, ce n'est pas du tout l'égalité de traitement, mais l'égalité d'accès. C'est-à-dire l'inégalité, elle est là de fait entraînée par un handicap qui atteint du physique, mental, sensoriel ou autre. Mais il y a un deuxième facteur, c'est l'environnement. L'environnement qui, lui, n'est pas adapté.
Florie Kerzulek.
Oui, donc moi je partage un petit peu ce point de vue sur la notion de, justement, de personnes en situation de handicap. Effectivement, pour inclure et pour que la société soit inclusive, il faut à mon sens, il faut penser en ces termes, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient adaptées pour qu'elles puissent être accessibles à tout à chacun et exercer et pouvoir exercer sa citoyenneté pleinement dans les meilleures conditions possibles.
Bon, alors la loi de 2005, une avancée positive ou pas, Serge Ebersold?
Moi, je pense que dans un certain nombre de principes, oui. À partir du moment où on les prend au sérieux, je crois que ce qui spécifie la loi de 2005, c'est justement la reconnaissance de droits individuels, que sont le droit à l'éducation, le droit à l'accessibilité, notamment du fait de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et cette reconnaissance des droits individuels, me semble-t-il, porte une exigence qui est de considérer les personnes présentant une déficience comme des sujets de droit.
Et donc, pas le cas auparavant, avant 2005, c'était pas une conception partagée par tout le monde.
C'était pas les mêmes conceptions du droit. C'est-à-dire que quand on parle de droits individuels, ce sont des droits qui se matérialisent au quotidien et qui sont censés permettre aux personnes de se penser comme des citoyens à part entière. Et la reconnaissance de ces droits individuels nous fait obligation, nous, de mettre à distance ce qui est de l'ordre du corps infirme, d'une certaine manière, pour penser la personne comme un sujet de droit, et donc par définition responsable et raisonnable, et à nous interroger sur la manière dont on va permettre aux personnes d'assumer les responsabilités qui sont celles d'un sujet de droit et qui sont les mêmes pour tout un chacun, quelle que soit la particularité.
Si on prend un exemple un peu basique de ce qu'est la citoyenneté, par exemple le droit de vote. Si je vous entends bien, l'idée c'est que la loi permette, tout le monde a le droit de vote. La loi doit permettre que tout le monde ait accès à l'isoloir dans le bureau de vote. C'est ça la logique, Claude Amonet?
C'est élémentaire. Moi, je pense quand même que... il faut essayer d'élargir la façon de voir les personnes qui ont ces difficultés. Ces personnes, c'est nous, c'est tout le monde. Toute la population vit des situations de handicap, que ce soit dans la petite enfance, que ce soit à l'occasion d'une fin de grossesse, que ce soit à l'occasion d'un incident pas forcément dramatique, d'une fracture, voilà. Et l'environnement et la société doivent absolument tenir compte pour être une société, justement, vous dites inclusive, c'est l'inclusion, c'est bien par rapport à l'exclusion. C'est justement qui permettent tout le monde, à n'importe quel moment de son existence, depuis son enfance jusqu'à un âge maintenant assez avancé, puisse se retrouver libre et égal sans doute dans un contexte social qui ne le discrimine pas, qui ne le rejette pas. Mais là, je voudrais juste citer une phrase parce que ça ne change pas pour moi. Loi ou pas loi, les mentalités ne changent pas. Et tant que les mentalités ne changent pas, on a beau faire des lois, elles ne sont pas appliquées, là, vous venez de le dire. Et c'est Murphy. Robert Murphy est un anthropologue, et je rappelle, je fais donc de l'anthropologie aussi, je le connais bien pour ça. C'est une personne qui a vécu les situations de handicap, qui est devenu très handicapé lui-même, et c'était un anthropologue de New York, et il a une formule assez intéressante, il parle de la liminarité, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap, il disait personnes handicapées, ne sont ni mortes, ni vivantes, ni malades, ni bien portantes, ni pleinement dans la société, ni complètement en dehors. Et il appelait ça liminarité. Les limes, c'est les frontières. Et donc, ces personnes en situation de handicap sont toujours dans les frontières. On modifie les frontières avec les lois, mais on n'a pas changé le fond du problème. On ne les considère pas comme les autres. Et ça, je crois que c'est très important.
Rémi Gendard, vous reconnaissez dans cette définition qui vient d'être donnée par Claude Amonet?
Alors, oui, tout à fait. Moi, je voulais réagir, parce qu'avant de venir, je me posais la question de la citoyenneté m'a toujours posé question. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de retourner la question.
C'est-à-dire
à quel moment, vous, par exemple, vous vous sentez citoyenne. On ne se pose pas la question. On est, a priori, citoyen. Au moment de se dire... moi, handicapé, est-ce que j'ai accès aux moyens d'exercer ma citoyenneté ? Je me reconnais, bien sûr, et pas seulement dans le problème de voter, mais en fait, à quel moment je me sens dans la vie de la cité. Et je crois que de plus en plus de personnes, pas handicapées, chômeurs, chômeuses, précaires, étudiants, étudiantes, se posent cette question. Moi, personnellement, je me sens et je me suis senti citoyen les jours où j'ai participé au mouvement étudiant ou aux manifs, etc. Où j'ai participé, en fait, aux grands lieux de sociabilisation, école, études, université, et au final, boulot. Mais aujourd'hui, de moins en moins de personnes, handicapées ou non, accèdent à ce boulot. Donc il y a en effet cette question théorique de comment on considère les personnes handicapées en situation de handicap, puisque ça dépend aussi d'un environnement. Mais comme dit, excusez-moi, je n'ai plus votre nom, les questions de mentalité. Je pense que je pense que c'est de très loin une question de moyens matériels, de conditions matérielles d'existence et de reconnaissance.
C'est vrai que le droit de vote que j'ai cité, et je le disais volontairement, exemple basique de la citoyenneté, l'idée de cette émission aussi, c'est de se demander s'il y a une forme de citoyenneté peut-être plus active, c'est-à-dire au-delà du simple droit de vote. Et je voulais vous demander, Florie Kerzulek, puisque vous travaillez sur l'enseignement quelque part de la citoyenneté, donc ça part de l'idée que la citoyenneté c'est pas inné, c'est quelque chose qui se transmet, s'enseigne, se pratique. Alors comment justement on passe d'une citoyenneté passive à une citoyenneté active dans la cité?
Alors il y a énormément de choses, c'est que la citoyenneté c'est donc au départ des droits et des devoirs comme devoir de payer ses impôts, le droit aussi de circuler librement, le droit d'avoir accès à une éducation, d'avoir accès à la santé. Ça, c'est au début, c'est la base de tout. Et ce sont des choses qu'on questionne. Du coup, est-ce que vraiment tout à chacun a la possibilité de circuler librement? Voilà, la question reste ouverte.
Parce que Rémi Gendarme disait donc l'accès à la citoyenneté, ça se fait à travers le travail, à travers la vie étudiante, à travers des manifestations, etc. Et la question, c'est encore faut-il justement avoir l'accès physique à la rue, par exemple, de dire si la citoyenneté, c'est manifester dans la rue, encore faut-il avoir matériellement la possibilité d'aller avec un fauteuil roulant dans la rue.
Et tout à fait. Et donc la citoyenneté, comme l'a très bien dit Monsieur Gendarme, c'est aussi tout ça. C'est aussi être étudiant, c'est aussi faire partie d'associations étudiantes, c'est aussi pouvoir aller faire du sport, c'est aussi pouvoir aller faire des soirées avec des jeunes, comme le font tous les jeunes de cet âge-là. C'est aussi pouvoir créer du lien social, pouvoir ne pas se poser de questions à chaque fois qu'on doit sortir, à chaque fois qu'on doit prendre les transports. Et effectivement, la citoyenneté peut s'exercer de plein de façons. Le droit de vote est une chose. Après, effectivement, aller manifester, aller discuter, essayer de questionner les représentations, de questionner nos préjugés, fait aussi partie de la citoyenneté. Et les personnes en situation de handicap, souvent, rien qu'en discutant, rien qu'en expliquant un petit peu leurs problématiques, font se poser des questions aux autres gens et les font aussi progresser, échanger leurs regards et leurs préjugés.
Serge Bersold.
Oui, parce que ce qui se joue derrière l'accessibilité dépasse largement la question de l'accès physique au lieu. Ce qui se joue derrière l'accessibilité, ce sont les formes de reconnaissance que peuvent expérimenter les personnes. C'est-à-dire la possibilité qui leur est donnée, comme le dit Ricoeur, d'être soi-même comme un autre. C'est-à-dire de se penser dans leurs différences tout en se pensant, tout en se pensant à parité de participation, c'est-à-dire aussi respectable ou aussi estimable que tout un chacun. Et il me semble que c'est un enjeu majeur parce que cela revient à dire que les barrières ne sont pas uniquement des barrières. Des barrières sont des révélateurs de handicap, c'est-à-dire ce à travers quoi se mesure la signification sociale qu'accorde une société à la déficience. Et c'est par exemple un jeune avec lequel je me suis entretenu récemment qui disait qu'effectivement, l'inaccessibilité des lieux imposait que ses copains le portent. Et là où c'était tissé des relations amicales, ben, lorsque les copains sont obligés de le porter, se réinstaure l'idée que la personne est incapable. Et donc, il est difficile de penser la personne capable si, au quotidien, les personnes vivent dans une logique programmatique où tout doit être planifié, où il n'y a aucune spontanéité, où la mise en scène de la vie quotidienne n'opère pas. Et on ne peut que voir la personne que comme incapable, parce que d'une certaine manière, l'inaccessibilité de la société nous y pousse. Et je crois que là, il y a un enjeu majeur derrière l'accessibilité, c'est que par-delà le droit de vote, par-delà le fait d'être scolarisé, d'accéder à l'enseignement supérieur, c'est pouvoir démontrer qu'on peut présenter une déficience, mais qu'on n'est pas handicapé, mais qu'on est quelqu'un qui, comme tout un chacun, a une particularité qui mérite d'être reconnue parce que nous avons tous des besoins particuliers, pardon, et nous sommes tous, dans notre quotidien, confrontés à des situations de handicap.
Rémi Gendarme, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit ?
Oh, mais je suis tout à fait d'accord. Et j'ai comme exemple la situation actuelle où moi, je suis réalisateur de films documentaires qui parle certes un peu de handicap, et souvent on m'invite à parler sur des questions de la loi de 2005 et du handicap, etc. Mais en effet, là, on n'a pas du tout parlé de compensation, peut-être on le fera, mais moi c'est la grande différence qu'il y a eu au moment de la loi de 2005, c'est reconnaître un droit à compensation et non pas une aide sociale, un petit RSA, on donne un peu d'argent, tout ça. Non, on reconnaît le droit à avoir un handicap compensé.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon. La citoyenneté est-elle accessible aux personnes handicapées ? C'est le débat que nous avons ce soir avec Rémi Gendarme, qui est en duplex depuis Périgueux, qui est auteur de films documentaires, avec Serge Bersold, avec Claude Amonet, Fleury Kerzulek, que je ne représente pas dans le détail, tout le monde, on trouvera tout ça sur Internet. L'accès au travail commence par l'accès à la formation, on en a parlé un peu. Serge Bersold, vous avez pas mal travaillé sur la question de la formation. Est-ce que de ce point de vue-là, au niveau des chiffres en tout cas, la scolarisation des enfants dans les écoles s'est améliorée apparemment, vous confirmez ?
C'est-à-dire que le nombre d'enfants reconnus handicapés scolarisés en milieu ordinaire a indéniablement augmenté. Cela étant, le nombre d'enfants et d'adolescents admis en milieu spécialisé n'a que relativement baissé. Ce qui laisse quand même quelque peu songère sur la réceptivité du système éducatif. Et surtout, me semble-t-il, une des dimensions qui peut-être nécessite d'être travaillée, c'est celle de la réussite scolaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer la scolarité à l'accès physique à l'école. Ce que l'on peut observer, c'est que les élèves présentant une déficience sont à inégalité de chance. En France, comme dans d'autres pays, notamment parce que on a du mal, me semble-t-il, à conjuguer ce qui est de l'ordre de la compensation avec ce qui est de l'ordre de l'accessibilité. Parce que cette articulation entre compensation et accessibilité permet de penser quelque chose qui est de l'ordre de la légitimité scolaire et de la mise en compétence de l'élève. Et c'est sans doute une des pistes de réflexion autour desquelles il importe de travailler, notamment à partir de données, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives.
Claude Amonet, vous aviez participé à l'élaboration, en tout cas vous avez été auditionné en 2005 lors de l'élaboration de la loi.
C'est exact, oui.
Est-ce que vous avez l'impression que cette loi a contribué à politiser un peu la question, mais en tout cas à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qui est un lieu, d'ailleurs rappelons-le, particulièrement inaccessible. Vous confirmez ?
Oui, confirmant. Alors je voudrais revenir quand même un peu sur la question d'actualité après 10 ans de cette loi, et vous me remettez sur le sujet. Bon, tout à fait d'accord pour Paul Ricoeur, soi-même comme l'autre, et en fait nous sommes tous des personnes handicapées. Toutes les personnes handicapées pour moi sont des individus normaux, ce ne sont pas des individus anormaux ni déficients, ce sont des personnes qui ont des particularités que nous en avons tous, et ces particularités on doit en tenir compte, et c'est là qu'est le fond du problème. Il n'y a pas de définition claire du handicap, il n'y en a pas dans la loi, elle n'est pas claire, c'est un copier de plus ou moins coller de la définition de l'OMS qui est extrêmement discutable, et d'autre part il n'y a aucun moyen d'évaluer le handicap cohérent pour un universitaire, j'en suis un, scientifiquement valable dans les MDPH, les maisons départementales de personnes handicapées.
Donc en gros, on a fait une loi sur le handicap sans avoir une définition claire du handicap.
Bien sûr, et pour ça que la notion de situation de handicap est intéressante, mais il faut surtout que ces personnes qui sont censées dire qui il est, qui ne l'est pas, et combien il est, comment il est, avec des chiffres de pourcentage, 80%, c'est totalement aberrant. Ces pourcentages, c'est pénal. C'est œil pour œil, dent pour dent. Au lieu de crever un œil ou d'enlever, ou de casser une dent ou de faire une fracture, on va donner de l'argent. C'est pas du tout fait pour ça. C'est le code d'Hammurabi repris par la Bible. On est complètement à côté du sujet et ça ne peut que dysfonctionner. Je pèse mes mots, étant médecin, voyant couramment et encore aujourd'hui, à la Riboisière, à ma consultation, des personnes en situation de handicap, le grand problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux MDPH les réalités de ces personnes-là. On ne parle pas du même langage. Voilà. Donc, je crois qu'ils savent, avant d'aller plus loin, il faudrait peut-être de faire des grands discours sur ci, sur ça, je suis d'accord. Mais il faut un instrument qui marche. Celui-là ne marche pas, je le dis.
Et au niveau des politiques, est-ce que les débats qu'il y a eu lors de cette loi ont, à votre avis, fait un peu évoluer la représentation du handicap au sein de la représentation nationale ?
J'ai assisté à la discussion de la loi, j'étais invité à assister, oui, mais c'était très... Il y avait deux discours, le discours toujours d'assistance, ces pauvres malheureux, il faut les aider, etc. Et puis il y avait un autre discours, quelquefois, mais qui critiquait d'ailleurs la loi. Mais ce n'était pas forcément l'opposition. À l'époque, c'était la droite et c'était des députés de droite qui s'exprimaient d'ailleurs souvent très bien.
L'assistance, la politique compassionnelle, c'est un terme qui revient souvent dans les associations et qui est dénoncé.
C'est très mauvais, c'est catastrophique.
Flory Kerzulek, comment on lutte justement pour ne pas être dans une posture de politique compassionnelle ?
Je crois que juste, je vais déjà ajouter, pas monopoliser le temps, mais chose extrêmement importante, c'est que si on veut faire évoluer cette société, et on a grandement besoin, on l'a vu récemment, c'est justement de prendre le modèle des situations de handicap pour réduire ces situations de handicap. Parce que quand on prend le plus, on peut obtenir le moins. Et c'est une amélioration pour tout le monde, absolument pour tous. C'est fantastique. Et économiquement, je suis persuadé que c'est très positif. On peut en discuter avec les économistes.
Flory Kerzulek ?
Oui, donc, du coup, pour sortir de ce champ du misérabilisme, je crois que nous, à Starting Block, on est vraiment dans cette démarche-là. Sur plein de choses, c'est-à-dire, oui, arrêtons par pitié les pauvres petits handicapés, les ceci, les cela, non. Juste, on part d'eux, on construit avec eux, on est tous différents, on a tous nos limites, nos qualités, nos défauts, et que c'est vraiment ce message-là qu'il faut faire passer. Et je rebondis un petit peu sur l'école et la scolarisation. Je pense que c'est vraiment une très grande chance pour tous les élèves de pouvoir avoir un minimum de mélange. Donc après, il y a des questionnements autour de l'inclusion, notamment au niveau des formations des assistants de vie scolaire, qui est un métier très précaire et qui, en plus, n'ont pas une formation très claire, et etc. Donc, mais je crois qu'il faut vraiment prendre ce temps de l'école pour être ensemble, vivre ensemble, et voilà, et pouvoir être mieux.
Lorsque j'étais ministre de l'enseignement scolaire, c'est moi qui ai créé le plan Handiscol, qui a demandé à toutes les écoles d'accueillir tous les enfants handicapés. Et pour cela, j'avais créé, parmi les aides éducateurs que vous avez supprimées, 7000 places, 7000 postes d'aides éducateurs, d'auxiliaires d'intégration. J'avais doté toutes les associations de parents d'enfants handicapés des emplois liés à l'accompagnement et aux auxiliaires d'intégration dans les établissements scolaires. Et c'est votre gouvernement qui a supprimé non seulement le plan Handiscol, qui a supprimé les aides éducateurs et qui fait qu'aujourd'hui, moins d'un enfant sur deux qui était accueilli il y a 5 ans dans l'école de la République ne le sont plus aujourd'hui. Et vous le savez parfaitement.
C'était un extrait du débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy le 2 mai 2007. On était dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle et on se souvient après du débat très vif, le ton était monté très fort entre les deux candidats. Mais ce qui nous intéresse là, effectivement, c'est de voir que le débat justement pris sur la question du handicap, est-ce que c'est la preuve que le sujet du handicap est un vrai, un sujet de débat politique et non pas l'objet d'un consensus sur toute la classe politique, justement, dans une politique un peu compassionnelle qu'on a décrit juste avant. Claude Amonet.
Oui, je réagis complètement là-dessus. C'est un très bel exemple. D'ailleurs, ça avait surpris beaucoup de monde de voir que le problème du handicap était complètement l'objet d'un grand débat. Mais c'était très bien en soi. Mais il faut le faire tout le temps. Et pour tout. Parce que je ne vois vraiment pas comment on peut se passer de ça. Et on voit très bien que chaque fois qu'on améliore un poste de travail pour une personne qui pourrait être en situation de handicap, pour tout le monde, c'est beaucoup mieux. Tout est mieux pour tout le monde. C'est fantastique. Et là, je crois qu'on loupe quelque chose. On manque, excusez-moi de pour louper, mais on manque quelque chose d'important. C'est pour ça que moi, je milite. Ça, et des définitions claires, précises de quoi on parle. Là, on parle de situation de handicap, c'est un grand progrès.
Mais alors, je rappelle justement que vous êtes à l'origine de ce changement sémantique. Vous êtes une des personnes à l'origine, alors, de ce changement sémantique, de ne pas dire personne. Pas dire handicapé, non. Dire personne en situation de handicap.
Et justement, une députée, très remarquable dans le débat, a dit « Arrêtez de les appeler handicapés, si vous leur donnez un aspect négatif, c'est les situations de handicap, mais elle n'a pas été suivie du tout, parce que moi, je n'ai pas été entendu. » C'est vraiment moi, il y a quelques années, dans les années 73 déjà. Ah oui. On avait utilisé donc ça avec la mairie de
Créteil.
C'est
vraiment vous voilà, qui avez établi cette notion.
Une invention extraordinaire, simplement c'est une approche du problème. Voilà.
Serge Eberswald.
Je crois qu'il y a différents niveaux. Hein. Je pense qu'effectivement, ce qui fait handicap peut relever d'une interaction à l'échelon micro. Je ne suis pas persuadé que la notion de situation de handicap à l'échelon macro, à l'échelon de la compensation ou de l'accessibilité, soit aussi judicieux que cela, parce que, si vous voulez, on ne peut soutenir qu'une personne. Or, si la personne n'est pas qualifiée, après on peut discuter des modalités de qualification de la personne, mais si on ne peut pas qualifier la personne, il est difficile de la soutenir. Prenons l'exemple de cette notion de compensation. Le législateur dit qu'il compense en besoin, mais en disant qu'il compense en besoin, il dit qu'il ne compense rien, parce que le besoin n'a pas de définition a priori. Il n'y a de besoin que contextuel. Donc, c'est bien en cela que lorsque le législateur dit qu'il compense en besoin, il consacre quelque chose qui est de l'ordre d'un désengagement. Mais aussi, il livre d'une certaine manière les personnes aux conventions qu'élaborent les maisons départementales des personnes handicapées autour de ce qui fait le problème de la personne. Et il y a un certain nombre de rapports qui montrent les grandes inégalités dans l'accès aux droits qui peuvent exister selon les maisons départementales des personnes handicapées. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est que la personne en situation de handicap, retenir cette notion-là, aurait pu pénaliser les personnes. Parce qu'elle aurait interdit de penser juridiquement l'aide et le soutien. Et pour être discriminé, il faut être discriminable. C'est-à-dire que si les personnes n'accèdent pas au soutien leur permettant de se rendre à l'école, d'accéder au même savoir que les autres, elles se trouvent de fait éloignée et marginalisée par rapport à la scolarité, pour prendre que cet exemple.
Rémi Gendarme, vous vouliez aborder aussi cette question de la compensation. C'est la notion clé de ce que doit être une bonne politique publique, la compensation.
Oui, d'après moi, oui. Et là, évidemment, on ne va pas parler des deux lois inappliquées en termes d'accessibilité des ERP. Je parle de la compensation. J'ai toujours besoin de rappeler ce que c'est dans la théorie. Il y a un handicap. En effet, comme l'a dit Claude Amonet, on ne peut jamais vraiment savoir ce que ça veut dire. La seule chose qu'on peut mesurer, c'est ses conséquences matérielles. Par exemple, je ne marche pas, donc je ne me déplace pas. Un jour, j'ai un fauteuil roulant électrique. Je ne marche toujours pas, mais je peux me déplacer. Et rebelote, le jour où j'ai un boulot qui est au quatrième étage, sans ascenseur. Dans ce cas-là, mon fauteuil ne me sert plus à rien. Mais un ascenseur permettra de compenser, etc. En effet, les MDPH,
donc pour un certain nombre... Les maisons départementales, pardon, c'est oui, juste pour rappeler pardon. Le sigle, maison, vous nous le rappelez ?
Maison départementale des personnes handicapées.
Merci.
Voilà. Et en effet, il y en a beaucoup qui sont à côté de la plaque. Parce qu'au début, tout allait bien, il y avait du pognon, on a eu plein d'heures, de débloquer, tous les besoins étaient reconnaissables, et petit à petit, eh bien, il y en a eu de moins en moins, etc. Au final, on se retrouve encore avec ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire des grilles, des cases et des gestes qu'ils appellent essentiels, c'est-à-dire lever, repas, caca, dodo. Et c'est tout. Alors évidemment, l'essentiel, il n'est pas là. Il est bien ailleurs.
Demain à 13h, le collectif pour une France accessible qui regroupe 70 associations appelle à manifester devant l'Assemblée nationale. Florie Garzulec, vous irez ?
Moi, je n'irai pas parce que je travaille. mais d'autres y seront et je pense que c'est très
vous
important.
Soutenez.
Je soutiens.
Rémi Gendarme, est-ce qu'il y a des manifestations prévues en Charente ?
Alors, en Charente, pas vraiment, parce que nous sommes assez peu nombreux à la PF Charente et nous avons décidé d'axer des choses sur des communiqués de presse et autres. Mais il y en a dans à peu près toutes les grandes villes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, etc., devant l'Assemblée nationale. Voilà.
Absolument. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Serge Ebersold, Claude Amonet, Florie Kerzuli, Rémi Gendarme, beaucoup de bibliographies à retrouver sur notre site. Merci beaucoup aux équipes de la locale de France Bleu à Périgueux. Je rappelle que la discussion se poursuit sur la page du Grain à Moudre sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi podcaster et réécouter l'émission. Je rappelle aussi que Hervé Gardette est en ce moment à Téhéran pour la préparation d'un magazine spécial qui aura lieu jeudi 12 février sur la jeunesse en Téhéran, un magazine exceptionnel dès 17h. La jeunesse iranienne, une jeunesse comme les autres dans un pays pas comme les autres, ne manquez pas ça. En attendant, il est 19h sur France Culture, c'est l'heure du rendez-vous et c'est à vous Laurent Gomard.